Donc le projet de décret sur ce qu'on appelle nous les sanctions supplémentaires envers les RMistes et les API a été publié par M. Fillon le 30 janvier. Et donc on en avait été avisé un bon mois avant, notamment par des articles de presse. Et donc, c'est un décret qu'on trouve, c'est une mesure de plus contre les chômeurs et les API, qu'on trouve vraiment scélérate. Donc, c'est des contrôles accrus, du train de vie cette fois-ci, avec plein de situations, sur la situation du logement s'ils sont propriétaires. Donc ils peuvent voir, notamment, ils peuvent voir diminuer leur RMI ou leur API, ou alors le voir carrément supprimé dans certaines situations. Alors ça va de la surveillance du logement, des conditions de logement, c'est-à-dire surtout s'ils sont propriétaires, s'ils ont un patrimoine qui est jugé trop important pour leur situation de RMiste, eh bien, on peut amputer leur RMI ou alors le diminuer. On va surveiller, on a fait un petit tableau, là, c'est un de nos camarades, c'est AC qui a fait un petit tableau rapidement. On va regarder s'ils ont des automobiles ou des bateaux de plaisance, même des motocyclettes. On va regarder les travaux qui ont été effectués dans l'appartement ou l'immeuble, enfin, surtout s'ils sont propriétaires. Hein. On va regarder s'ils ont ces trois documents. Vous les prenez tous les trois ensemble. Oui. On va regarder s'ils ont acquis de la IFI. Alors il faudra qu'ils justifient si on leur aura offert ou alors s'ils l'ont acquis eux-mêmes et pour quel montant ces factures. S'ils jugent tout ça, c'est la CAF, j'ai oublié de le dire, c'est la CAF qui effectue caisse d'allocation familiale qui va effectuer ces contrôles. Et s'ils estiment que c'est trop élevé comme dépense, ben, pareil, le RMI ou la FPI peut être amputé d'un certain taux ou alors voire supprimé carrément. Donc il y a aussi le patrimoine, les objets d'art qui sont dans l'appartement ou de collection, ou les bijoux, les voyages qui sont effectués dans l'année, n'est-ce pas ? Et les clubs de sport, si vous êtes inscrit dans un club de sport, et si c'est trop élevé comme montant, les capitaux, il y avait aussi, je crois, il y avait d'autres choses plus pernicieuses. Oui, il y a aussi les nourrices des enfants, les gardes d'enfants. Ça ne concerne pas forcément tous les RMistes, mais ça peut concerner par exemple il y a certaines mesures qui concernent des RMistes qui étaient avant cadres et puis qui avaient un patrimoine et puis qui sont tombés au RMI. Et puis ça concerne le RMiste lambda. Ça concerne tous les niveaux de RMiste ou d'API. Donc voilà, c'est des atteintes à la vie et à la dignité des gens. C'est des atteintes graves encore une fois de plus, pour des gens qui sont en situation de précarité, de grande précarité, ça rappelle un peu ce qui s'est passé en Allemagne il y a 2-3 ans avec le plan Hartz-IV, parce qu'il y avait aussi des mesures comme ça qui touchaient le patrimoine, les bijoux de famille, les... Tout ça, ça rappelle étrangement les comptes en, le plan Arcas, il surveillait aussi les comptes en banque des enfants ou je crois, de la famille. Il y avait donc c'est au niveau européen qu'on s'aligne pour des mesures qui vont toucher donc des populations qui sont fragilisées. Et donc ça nous semble grave. Alors assez, il y a ici, oui j'ai oublié de le dire, je suis désolée pour mes camarades, oui, on va quand même faire un tour de table. Bah, moi je suis d'assez Agir Ensemble contre le chômage, on est au moins deux, trois d'assez ici.
Moi je suis aussi de Stop Précarité.
Comment ? Catherine. Catherine Conti.
Catherine Conti.
Oui, si les camarades veulent. Il y a même un camarade qui vient de Clermont-Ferrand parce que, comme on est très militant, les camarades sont déplacés pour hier et ils sont restés aujourd'hui à Paris parce qu'il y a des choses. Il y a encore des choses à faire aujourd'hui. Donc, présentez-vous, les copains.
Mais ça tourne dans quel sens la table ?
Là, les copains
vas-y,
ont commencé.
Vas-y, commence. Alors, Daniel Couy, comme ça.
Daniel Couy a fait. Couy, c'est K.
Donc, C-O-U-Y.
C-O-U-Y.
Vas-y,
tu
mets
un K.
Non, je suis désolé.
Je suis un K, mais pas.
T'es pas russe.
Breton.
Donc, il arrive assez.
Voilà. Bon, alors, Guy-Henri Plessy, du MNCP et de l'association Chômeurs Précaires de Paris.
Et c'est quoi ?
Guy-Henri Plessy.
Donc, Laurent Delavigne, du MNCP.
Et normalement, il y a le DAL qui s'associe. Ils vont venir. Il y a aussi Zali. Oui. Donc on est au moins trois associations de chômeurs, plus le DAL, le droit au logement,
plus Stop Précarité.
Oui, Stop Précarité, pardon. Donc c'est vrai qu'on a fait un appel commun, unitaire, et Jean-Baptiste Thérault pourra dire s'il y a d'autres signataires à l'appel qu'on avait fait. Pour mettre sur pied cette conférence de presse, on attend Jean-Baptiste, il va descendre. Il est entre deux réunions, Jean-Baptiste.
Alors, sur le projet, ce qui me tracasse le plus, c'est quelqu'un qui est à Paris, qui a un logement, qui paye son loyer, par un coup, en province, ses parents décèdent. Grande propriété, il hérite. Du jour au lendemain, il a plus de RMI, plus de loyer à Paris, et se retrouve SDF. Il repart à la case départ.
On n'est pas sûr que... Il y a peut-être encore des zones d'ombre qu'il faut qu'on clarifie dans l'application de cette loi.
Par rapport au RMI, d'abord il faut dire aussi que suppression du RMI, c'est aussi suppression de la CMU, c'est-à-dire plus de sécurité sociale pour les gens qui vont se retrouver dans cette situation-là. Alors effectivement, quand on regarde, on dit oui, bon, c'est bien, il y en a qui ont dit oui, pourquoi pas, et s'ils ont des niveaux de vie. Or, le niveau de vie, il est souvent, pour les personnes d'un certain âge, c'est ce qu'ils ont hérité, c'est ce qu'ils ont économisé, c'est ce qu'ils ont, par leur travail, souvent, ce qu'ils ont gagné. Et ils se retrouvent d'un seul coup au chômage. Alors les premières années, on continue à toucher l'allocation chômage. Après, c'est l'ASS, dans le meilleur des cas. Et après, c'est le RMI. Et quand on est au RMI, au bout d'un certain temps, si on n'a plus les moyens de se soigner, c'est-à-dire qu'on va, on sera obligé de vendre, les gens seront obligés de vendre leur propriété qu'ils ont hérité, et c'est un double, je veux dire, c'est une double peine, parce que c'est quand même bien souvent, quand c'est quelque chose qui appartenait aux parents, hein, et qu'on a hérité, c'est quand même quelque chose auquel on tient. Donc là, on se retrouve en plus dans une situation de grande, non seulement de précarité, mais aussi au niveau conscience, c'est très très difficile à avaler. Donc, et je crois qu'effectivement, on ne peut pas laisser passer, c'est malheureusement, comme une nouvelle fois, ils ont passé un décret, hein, c'est-à-dire qu'on n'en a absolument pas parlé, que ça n'a pas été voté. Je veux dire que politiquement, c'est remettre encore une couche, alors qu'ils se font des milliards. On peut détourner 7 milliards à la Société Générale. Sarkozy peut vous dépenser, multiplier son salaire par je ne sais combien. Et à côté de ça, on va aller faire la pression sur des chômeurs, sur des gens qui sont RMI, pour leur en les montrant du doigt. C'est-à-dire qu'on va une nouvelle fois on s'attaque aux plus pauvres pour permettre aux plus riches de s'enrichir. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on trouve, nous, en tant qu'association de chômeurs, que c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que c'est continuel depuis quelque temps. On a commencé par s'attaquer aux chômeurs fraudeurs. Maintenant, on s'attaque aux RMI fraudeurs. Or, déjà, quand on est RMI, je voudrais bien savoir, hormis peut-être qu'il y a quelques exceptions, et comme a fait exprès le Parisien, on a trouvé une il y a peu de temps, hein, une exception, mais c'est l'exception qui fait la règle. Hein. Hein, c'est pas l'exception qui fait la règle, je ne sais plus le terme exact, peu importe. Hein. Mais je veux dire qu'il y a un moment ou un autre, on va dans une situation où on peut préparer directement les tentes sous les ponts parce qu'il va y avoir une nouvelle de nouveaux arrivants qui vont se retrouver SDF. À l'heure actuelle, il faudrait presque être mieux être SDF que d'être RMiste. Parce que l'SDF il touchera le RMI parce qu'on lui dit bon, voilà. Ceci dit, c'est sûrement pas la situation qu'on veut. Nous, on veut que de toute façon, nos positions, c'est que tout le monde ait une dans leur vie puisse bénéficier d'un salaire,
d'un revenu
de vie, d'existence, pas de sa naissance, mais du moment qu'il sort de l'école jusqu'à sa retraite, y compris. Qui lui permettent de vivre d'une manière décente. Et c'est de cette manière-là qu'effectivement, on pourra redresser les choses. Là, à l'heure actuelle, c'est quand même quelque chose... S'attaquer au RMI, à quoi on va s'attaquer après? On peut se poser la question. Il n'y a pas plus bas. Hein. On va s'attaquer à ceux qui n'ont rien. D'ailleurs, on s'y attaque à ceux qui n'ont rien, on les vire.
Hein, mais à la SS.
Donc, c'est là-dessus que nous, en tant qu'association de chômeurs, on ne sait pas... C'est de la colère qu'on a. C'est de la colère contre ça. C'est de la colère contre qu'on s'attaque une nouvelle fois encore à ceux qui sont les plus pauvres, à ceux qui n'ont pas les moyens, à ceux qu'on montre du doigt. C'est leur appuyer encore un peu plus sur la tête. Et c'est là-dessus pour laquelle on vous a fait venir ici. On a voulu en parler. Et je pense que de toute façon, on va non seulement parler, mais il va falloir qu'on agisse. Et ça, c'est une chose qu'on va faire.
Je voulais dire aussi quelque chose après.
Éventuellement de vérifier si on a une possibilité juridiquement de mettre KO ce décret, parce que vraiment c'est la goutte qui fait déborder le vase. Donc on va vérifier, là on n'a pas eu le temps de le faire, mais on va mettre le projet entre les mains d'avocats et voir si vraiment il est possible de le mettre KO.
Oui. Moi, je voulais insister quand même, c'est sur ce que, par rapport à ce que tu disais, c'est sur la philosophie à laquelle on assiste depuis des années, c'est-à-dire on culpabilise les chômeurs, on est coupable de ne pas trouver de travail, on est coupable d'être pauvre. Quand tu disais tout à l'heure, il faudrait presque mieux être SDF, on entend aussi des choses là-dessus, c'est-à-dire qu'on parle carrément d'une amende pour les sans-domicile fixe maintenant.
Et de prison. Délit de vagabondage.
C'est assez terrible. On s'attaque carrément à la pauvreté, mais pas dans le bon sens. Alors d'un côté, on va avoir des phrases ou des espèces d'initiatives type le Grenelle de l'insertion. De l'autre côté, on voit les décrets qui tombent comme ça. Donc on est vraiment en droit d'être en colère, ça c'est clair, en droit de se demander vers quoi on va. Et vraiment, on assiste, comme tu le disais tout à l'heure, on voit ça, on l'a bien vu en Allemagne, où les gens sont carrément forcés de déménager avant, pour pouvoir continuer à avoir leurs prestations. Mm-hmm. Derrière tout ça, il y a aussi forcés à trouver n'importe quel emploi. C'est une pression plus qui va aller vers un espèce de retour à l'emploi forcé sur des petits boulots qui ne permettent pas de vivre généralement. Donc vraiment insister sur cette philosophie qui est pas nouvelle. Hein, qui, je veux dire, c'est quelque chose d'assez vieux. On se bat dessus depuis des années. Mais là, c'est vrai qu'on arrive à, on arrive vraiment au pire, quoi, au summum de ce qui est possible.
Moi, je voulais dire quelque chose aussi pour insister sur précarité. C'est que ce décret touche les RMI, il touche aussi les allocataires de parents isolés, donc beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans cette situation qui ont un mal de chien à joindre les deux bouts. L'API, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, maintenant, on va en plus essayer de la leur diminuer ou de la leur enlever. C'est vraiment un scandale absolu. Et donc, comme le disait Daniel, nous, on n'est pas du tout pour déjà, on trouve qu'avec le RMI et l'API, on ne peut pas vivre. On a élaboré, il y a maintenant un an et demi, une plateforme pour que tout le monde ait droit à un revenu décent. Et le RMI ou l'API, c'est déjà pas un revenu décent. On a élaboré une plateforme pour que tout le monde ait droit, avec ou sans emploi, à une continuité des droits, droit à la santé, droit à la formation, droit au logement, droit au papier, droit à la carrière, droit à l'avancement. Et donc, c'est déjà la situation actuelle ne nous convient pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se font exclure de l'assurance chômage, et elle va être renégociée cette année, cette assurance chômage, au premier semestre-là. Et le patronat a déjà annoncé, dans l'accord qu'il a signé, il a quand même trouvé 4 syndicats pour signer un accord avec lui, dans lequel il annonce que la nouvelle convention assurance chômage indemnisera mieux les chômeurs, mais pour des durées plus courtes. Et le projet du patronat est de se désengager financièrement de l'assurance chômage. Et nous, pour balancer le plus de monde possible au RMI. Alors déjà, nous, cette situation ne nous convient pas du tout. Et là, on est en train, en plus, d'essayer d'amputer ce maigre RMI, cette maigre allocation de parents isolés, avec lesquels les gens ont déjà un mal de chien à vivre. Et donc, c'est absolument scandaleux. C'est vraiment, avec le projet de décret qui rétablirait le délit de vagabondage avec prison et 7 000 euros d'amende pour les gens qui couchent dehors, et vous avez tous vu qu'il y en a plein qui couchent dehors, il y en a de plus en plus, eh bien, on se retrouve au 19e siècle, on est dans une société qui frappe les pauvres, qui les criminalise et qui glorifie les fraudeurs, les riches, les patrons, les mafieux. Voilà.
Ce qu'il faut savoir aussi, ce que je me demande, comment vont faire ceux qui ont des logements, qui n'ont plus de RMI, pour aller au bureau d'aide sociale, bureau d'aide sociale, leur dire non, on n'a plus de sous, on ne peut pas vous payer votre loyer. L'APL, prenez en compte ce que touchait, ce que valait ton logement, ce que touchait au RMI pour te donner ton APL. Donc, ils n'auront plus ces mesures-là, ils n'auront plus l'apport RMI en plus de ton loyer comme ça coûte, donc ils ne donneront plus d'APL. Qui va payer? Comment ils vont faire les assistantes sociales? Ils vont péter un plomb, ils vont péter un câble. Ils vont dire, mais j'ai triplé, j'ai quadruplé le nombre de pauvres qui viennent me voir parce qu'ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire là. Et pour leur dire, c'est pas de notre faute, il faut lutter avec nous, vous êtes en social, parce que faut leur dire, si vous venez lutter avec nous, vous faites reculer les lois. Et c'est là qu'il faut bien faire attention, c'est de dire... De laisser faire l'État dans les instances qu'ils veulent faire, et ben c'est pas ce qu'on veut. Donc si les assistantes sociales ne viennent pas lutter sur ce qui arrive aux plus démunis, je me demande jusqu'à quel point les dettes sociales vont pouvoir résister.
Oui, alors, ce qu'il faut comprendre dans ce décret, c'est qu'il s'agit d'un changement radical historique de politique sociale dans ce pays. Ça veut dire que désormais, alors si je comprends bien le système de calcul, quand la CAF enquêtera et qu'elle trouvera que l'allocataire dispose de biens pour un montant à peu près de 2 400 euros, à ce moment-là, il n'est plus éligible à rien. C'est-à-dire que pour être éligible, il faudra être quasiment en situation d'exclusion, déjà.
Voilà.
Voilà. Donc, ce système est complètement stupide parce qu'il va grossir les rangs de la grande exclusion, à moins qu'on se montre aussi cynique avec la grande exclusion, évidemment. Dans ce cas-là, on se débarrasse des gens.
Vous pouvez préciser votre calcul ?
Eh bien, vous l'avez dans la convocation. Le droit du remis est remis en cause lorsque le montant de l'évaluation, donc qui sera faite par la CAF, est supérieur ou égal à la moitié du montant annuel du RMI. Donc vous multipliez à peu près 400 euros par 12, vous divisez par 2, et vous avez le montant plafond de l'évaluation. Et ce qui est extrêmement drastique. On peut dire qu'il s'agit de dégraisser la CAF des allocations RMI et puis les conseils régionaux.
Hein? Donc, qu'est-ce qui est pris en compte ? C'est les biens immobiliers ?
Alors, les biens immobiliers,
c'est tout ce que disait Catherine.
Si vous avez une voiture, elle est prise en compte à partir de 10 000 euros.
Enfin,
on va compter dans votre cuisine vos appareils électroménagers. C'est pris en compte à partir de 1000 euros, si j'ai bien lu les textes, votre matériel IFI et ordinateur, etc. Alors si vous avez besoin d'une voiture pour espérer retrouver du boulot ou d'un ordinateur, vous êtes pénalisé. Donc c'est vraiment une machine à faire d'exclusion. C'est une politique où on va vers le social à l'américaine.
Là, c'est moins de 1000 euros pour des appareils électroménagers, équipements son IFI et matériel informatique.
C'est quelle source
de documents? C'est l'Égypte.
Les ASH, hein, bon, sinon
les ASH aussi. Les ASH
qui. 1000 euros, c'est vite fait. Hein,
mais dans le tableau, je pense qu'il y a une différence apparemment entre dépenses et valeurs vénales. Donc, dépenses, par exemple, pour la IFI, s'il faut que ce soit du matériel qui a été acheté dans l'année, ou ils vont vraiment regarder la valeur de ce que vous avez déjà?
La valeur.
Oui, mais là, il parle des dépenses pour les matériels.
Il parle des dépenses, oui.
Les automobiles.
Oui, il parle de dépenses.
C'est une question que je vous pose. Hein. Je ne sais pas.
Non. Parce que, par exemple,
pour
la valeur vénale, c'est la valeur...
Pour les automobiles, c'est la valeur vénale.
Oui,
pour l'électroménager, c'est les dépenses, oui, je sais pas. Si
quelqu'un
c'est...
qui est propriétaire de son appartement qu'il a payé pendant toute sa vie, il se retrouve au RMI. Dès lors qu'il est propriétaire, il n'est pas éligible parce qu'il est assis sur un capital, il n'a qu'à le vendre.
Là, on était sur les dépenses.
Pour la IFI,
notre collègue, il a fait un tableau, là. Il a essayé de faire un tableau.
On voit qu'il n'y a pas trop de plaisance, je suppose que c'est par rapport aux dons.
Pour la IFI,
ils vont regarder la dépense.
Pour la IFI,
vous savez qu'ils
acceptent les dons, c'est pas.
Non, la IFI, ils vont regarder ce que vaut ton appareil IFI, et ils vont regarder combien... Tu dépenses en faisant ton club internet, avec club internet, combien tu dépenses dessous sur ton ordinateur, combien ça te coûte, le
club internet.
Là, sur le tableau, on a essayé de faire un petit peu des situations. Pour la IFI, c'est bien noté, 80% du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1000 euros. Il faut les justifier dans l'année.
On va passer l'inquisition.
Le montant des dépenses.
Ça, c'est pour la IFI, mais pour le patrimoine immobilier, c'est la valeur du patrimoine immobilier qui est prise en compte.
Quand on est hébergé aussi, c'est ça ?
Comment ?
Après, il y a la question du logement.
Sur le logement, il y a aussi les propriétaires, il y a l'hébergement.
Il y a les locataires aussi. Ceux qui sont en location aussi. En location, ils vont perdre. L'estimation de ce que vaut le loyer, le logement, en regardant ce que tu payes
sur
le marché, ils vont regarder ce que tu payes comme loyer, ils vont faire une estimation des deux, et s'ils estiment que ça, c'est plus haut à l'année, bah, t'es baisé.
Oui,
comme ça.
Ils prennent en compte aussi le montant garanti par le contrat d'assurance sur la valeur de l'appartement. Mm-hmm. Donc ils prennent ça en compte aussi.
Et la CAF aussi, la PET aussi prend en compte.
Bon, il y a quand même une chose qui est inadmissible, c'est par exemple pour les travaux, charges et frais d'entretien des immeubles, oui. C'est 80% des montants des dépenses. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire, que vous avez un grand niveau de vie, vous pouvez déduire et ne pas payer d'impôts. Et alors là, contrairement, en tenant compte de ça, ça va rentrer la somme va rentrer et on va vous supprimer le RMI.
Très juste.
C'est quand même quelque chose qui est qui me paraît quand même un peu, qui montre bien la, de par qui a été écrit et pour quelles raisons on a sorti ce décret de loi, parce que c'est très facile à comprendre.
Non,
alors voilà, c'est pas difficile à t'expliquer, c'est-à-dire que là, on prendra en compte, pour pouvoir bénéficier du RMI, la somme de 80% du montant des dépenses, des travaux que tu fais. Si tu es propriétaire et que tu as des moyens, que tu n'es pas au RMI, que tu es un grand propriétaire, tu peux le déduire et arriver à un bout d'un moment à ne pas payer d'impôts. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, selon que tu seras riche ou pauvre, alors on va t'appauvrir encore un peu plus. Donc, c'est-à-dire qu'on va te.
D'après ce que vous observez, ça va quand même, c'est essentiellement au propriétaire, au pauvre, que ça va poser problème, non?
Même au locataire.
Ça, c'est d'autres critères encore.
Ça touche aussi les locataires. C'est marqué un quart de la valeur locative annuelle.
Mais oui, mais ça, c'est l'estimation de la valeur du bien, ça ne veut pas dire que c'est pour les locataires.
C'est propriété occupée par le bénéficiaire. C'est un locataire occupé par le bénéficiaire.
À l'usage des précis, c'est le site internet de Légifrance avec le texte du 30 janvier 2008, texte numéro 32, JORF 0025. Il y a 8 pages. Donc je vais lire si vous voulez lire. Voilà. Là, c'est la source précise. Tout le monde n'a pas les mêmes documents. Donc
Ce que ça pose comme question également, hein, parce qu'on voit où on va, hein, grosso modo, on met tellement à la pression actuellement sur tout, sur les chômeurs, etc., sur diminuer, sur favoriser un maximum que les gens se trouvent vite virés des demandes d'emploi, ça pose à mon avis la question, pour moi, qui est celle-là, c'est de la redistribution des solidarités de richesse et des gens qui cotisent. C'est-à-dire, soit ils poussent les gens à dire, si c'est comme ça, à ce moment-là, je préfère garder toutes mes charges patronales et mes impôts et les autogérer, si pour être le cas d'un petit propriétaire, une personne qui a été un cadre moyen pendant 10 ans, qui se retrouve au chômage, accident de vie, etc., c'est peut-être plus intéressant pour lui, en tant que petit propriétaire, d'avoir gardé tout son spécule par mois de tout ce qu'on lui a pris comme cotisation, d'avoir placé sur un compte en banque, pour le retrouver, plutôt que de se retrouver sous ces pressions sociales-là. Moi, j'ai deux questions. Soit, un, ils sont en train d'anticiper tout doucement que on arrête de recotiser et qu'on arrive à un système où il y a de moins en moins d'impôts. Et en fait, tout ça, c'est une stratégie pour aller. Soit, deux, ça pose la question de comment on est en capacité de recréer des coopératives alternatives entre nous, de se désolidariser de ce qui se passe actuellement. Parce que c'est quoi la position de l'UNEDIC? Parce que là, c'est nos impôts locaux, c'est les conseillers généraux. Donc, non, en principe, c'est un test d'État. Normalement, c'est lié aux conseillers généraux, donc c'est lié à nos impôts locaux. Donc, à un moment donné, c'est quoi la pression et la vue d'ensemble qu'on peut avoir là-dessus et comment remobiliser? Parce que ça pose clairement la redistribution de notre volonté de citoyens sur comment on décide que nos richesses soient redistribuées.
Oui, et ça pose la question, comme je le disais, de cette négociation qui va venir de la convention d'assurance chômage là au cours du premier semestre, parce que ça va être décisif aussi, parce que là le projet du patronat, c'est que le patronat se désengage de l'assurance chômage de beaucoup de gens, il les laisse prendre en charge par l'État qui paierait une allocation forfaitaire minimale inférieure à ce que toucheraient les gens par l'assurance chômage. C'est pour diminuer la contribution du patronat à l'assurance chômage, c'est le projet du MEDEF. Alors on va voir comment ça va se négocier au cours des mois qui viennent. Mais tout est lié, comme vous dites, parce qu'effectivement, le projet de MEDEF, là, il a déjà réussi, avec l'accord patronat-syndicat, à faciliter énormément le licenciement et à rendre beaucoup plus difficile les recours des salariés devant les prud'hommes. Et là, maintenant, son projet, c'est de se retirer progressivement de l'assurance chômage et ne paierait l'assurance chômage que pour quelques salariés qui seraient privilégiés et qui continueraient à toucher l'assurance chômage, les autres payés par des cotisations sociales, les autres toucheraient une assurance chômage minimale payée par l'État. Il veut se défausser sur l'État. Et c'est ça la logique.
Pour revenir à ce décret, on n'a pas pu parler encore à la mission fraude de la CAF, mais il y a
une des personnes qui avait parlé à la presse, et qui dit non, ça touchera que quelques dizaines de personnes par an, et c'est vraiment des cas rares, spectaculaires et choquants, et ça touchera certainement pas. Est-ce que vous avez essayé de calculer?
Mais non, mais dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin de prendre un décret. Oui. Il suffit d'appliquer les textes qui existent déjà, et si les gens sont en infraction dans leur déclaration, il suffit de faire un travail de police, c'est tout. Évidemment, c'est de mauvaise foi, ce prétexte.
De toute façon, imaginons...
Pas que Pinot Valenciennes...
Bien sûr que non.
Imaginons qu'à Paris, quelqu'un qui a hérité d'un 40 mètres carrés qui était à ses parents, la valeur locative est à peu près de 700 euros par mois. Hein. Et chez Chuba, en plus, ça dépend des arrondissements.
Bien sûr.
700 euros par mois, vous multipliez par 12, hein, ça fait 8004, vous divisez par 2, ça fait 4002, ça dépasse la somme qui est donnée pour voir si on peut bénéficier du RMI. C'est-à-dire que la somme qui est de 12 fois divisée par 12 fois de RMI, 2400. Là, vous avez déjà dépassé. Donc à ce moment-là, on peut, selon le texte qui est sorti, vous supprimer le RMI tout de suite. C'est-à-dire qu'on va obliger les gens à vendre pour pouvoir vivre.
Ou accepter.
Voilà. Ou accepter. Voilà.
Et qu'est-ce qui nous dit que l'année prochaine, ils ne vont pas réduire le plafond?
Tout ça contribue à accentuer le problème qui a commencé depuis août 2005 avec le dispositif de contrôle radiation des chômeurs et sanctions qui a fait basculer beaucoup de chômeurs dans le RMI. Hein. Tout ça, c'est dans la continuité des dispositifs contre les chômeurs.
Il manque plus d'établir un quota comme avec M. Hortefeux.
Mais ce que j'ai une grosse peur, c'est que sur la nouvelle convention assurance chômage, ils enlèvent la SS. Ils enlèvent, supprimer la SS, et en supprimant la SS et le RMI, une allocation de base des deux, et en mettant plein de contrariétés pour l'avoir, plein d'exigences. Et tu en auras plus de la moitié qui n'auront plus rien. Dans ce cas-là, avec toutes les contraintes qu'ils mettent dedans, entre la SS, le RMI, de faire une allocation, parce que c'est pour parler aussi de faire de marier la SS et le RMI
fusionner,
c'est pour inciter les RMI à s'inscrire à la NPE. Parce qu'il y a beaucoup de RMI qui ne sont pas inscrits à la NPE et qui n'ont pas besoin d'être inscrit à la NPE pour toucher le RMI. C'est pour contrôler encore plus les gens.
Mais je rappelle que pour les femmes, comme je l'ai dit, ça va être dramatique. Hein, parce que la pauvreté féminine est déjà assez importante. Les femmes sont souvent justement... beaucoup de femmes qui élèvent seules leurs enfants dans des conditions très difficiles. Ça va les frapper de plein fouet.
Et il faut savoir aussi les premiers touchés, parce qu'il faut savoir qu'il y a des RMI qui sont intermittents du spectacle.
Oui, oui.
Ils vont regarder ce qu'ils ont travaillé dans l'année, vu qu'ils n'ont pas les 507 heures. Si c'est exactement la même chose.
Non, ceux qui sont RMI, les intermittents qui sont RMI, qui ne touchent pas le statut d'intermittent. Il y en a.
C'est ce que j'ai dit, qu'on fait 507 heures et qu'on touchait de l'argent dans l'année, ils vont calculer.
Ils ont fait des voyages pour faire des productions et à droite, à gauche, tout ça, ils vont prendre tout ça en compte.
Et ils ne toucheront plus rien, même pas une allocation chômage.
J'aurais une petite considération annexe.
Vous présentez.
Oui, alors Émilie Morata, assez clairement, Alter Eco, oui, c'est que quand on reprend des petits emplois, on est tout de suite traité, on reçoit par internet des menaces. Donc au lieu d'être récompensé, on est en plus menacé de devoir travailler. Donc par le site, je pointe sur une éthique. Ils disent, attention, hein, si vous oubliez de signaler vos heures, les petites poussières d'heures qu'on peut graver à droite à gauche, on vous enlève tout. Et donc, il y a en plus un espèce de propos menaçant. Et deuxièmement, sur les CES, moi j'ai fait un CES de 1 an, on est censé être suivi et avoir un plan de formation, on est censé être en insertion. Évidemment, on n'est pas du tout en insertion, on est en production super pressurisée avec jetage de peau du citron quand on l'a pressé. Par contre, là, il n'y a aucun contrôle de l'employeur, en l'occurrence le service public, un merveilleux État-patron qui est parfois pire que les patrons pour les contractuels de la fonction publique. Là, il n'y a pas de contrôle. Alors, quand on est du mauvais côté on est pourri de contrôle. Mais de l'autre côté, moi j'aurais bien aimé qu'en tant que CES, on dise alors, est-ce que vous pensez qu'on vous insère bien, vous êtes suivi, et au bout d'un an, est-ce que vous pensez être plus employable, etc. Là, zéro, hein, silence radio de l'État. Donc c'est vraiment tout d'un côté et rien de l'autre. Voilà. J'ai subi pour un retard d'envoi de la feuille de ressources, parce que quand on est précaire, on suit parfois, on ne suit pas l'administration avec ses cadences rigides. J'ai eu 2 semaines de retard pour l'envoi de ma feuille de ressources. Alors là, tac, ils m'ont suspendu mes allocations rétroactivement. Je pense que c'est illégal, mais évidemment, il faut être procédurier, je ne vais pas leur faire un procès. Donc à 30 jours, ils m'ont enlevé 15 jours en amont, je veux dire. Donc ça, la sanction. Ensuite, contrôle la direction du travail pour savoir si je cherchais bien. En plus de la NPO qui me contrôle tous les mois pour savoir si je suis une bonne chômeuse qui cherche. Et voilà, donc un beau harcèlement très efficace. Côté employeur, zéro contrôle. Ouais. Je touche là ici.
Moi, ce qui me semble là, c'est qu'il y a quand même une mesure d'économie générale qui est faite là un peu sur le dos des ménages pauvres qui bénéficient d'un centre de prestations. Qui sont révélées d'ailleurs qui sont insuffisantes, hein, mais qui permettent à un certain nombre de personnes de survivre. Et là, on lit dans la présentation un peu générale de ce décret, non pas une volonté, une volonté de lutter contre la fraude, bon, évidemment, hein, on met toujours la question de la fraude, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est préoccupant, c'est qu'en réalité, une mesure qui est présentée comme une mesure de lutte contre la fraude va en réalité s'appliquer beaucoup plus largement à quasiment l'ensemble des bénéficiaires d'aide sociale.
Des allocataires.
Des allocataires, oui. Donc, par exemple, sur la question des propriétés bâties. Bon, on a effectivement un certain nombre, regardez, quand on lit les prestations qui sont visées, le RMI, la prestation de la JE, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire. Bon, alors là, pour le coup, l'allocation de rentrée scolaire qui est une mesure très répandue, là. Là, on voit très bien que ça va avoir un impact immédiat sur le montant de l'allocation de rentrée scolaire, cette disposition. Hein. Oui, on suppose qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des petits revenus, mais qui sont quand même propriétaires de leur logement. Donc cela a dégagé. Alors après, c'est encore plus préoccupant quand il s'agit de ménages qui ne vivent ou qui ne survivent que grâce à l'API, le RMI, la JE, voilà, qui vient en complément. Je ne parle pas de la couverture maladie universelle parce que c'est un droit supplémentaire, d'ailleurs qui est considérablement, la complémentaire, hein, qui elle est je dirais, la difficulté pour conserver la CMU complémentaire, est accrue. Hein. On voit bien que là, il y a une volonté également de taper sur la CMU complémentaire de façon importante au niveau quantitatif pour tous ceux qui sont propriétaires de leur logement. Hein, puisque on lit bien que pour le RMI, les prestations familiales et l'API, en ce qui concerne les propriétés bâties, détenues ou occupées, ou les propriétés non bâties, les terrains. Là, pour le RMI et l'API, donc minima sociaux, ils prennent en compte un quart de la valeur locative annuelle, qui est quand même quelque chose de relativement élevé. Enfin, je veux dire, bon, la valeur locative est un petit peu en dessous des loyers du marché, mais ça représente quand même une somme. Donc, on fasse des évaluations là-dessus, c'est clair. On fasse des projections, en tout cas. On évalue un peu ce que ça signifie, les conséquences que ça peut avoir. Mais, autrement dit, ça sous-tend quand même. Ce que ça sous-tend derrière, ça veut dire que, finalement, tu es propriétaire d'un bien, et donc, on rentre un peu dans des dispositifs, des approches un peu anglo-saxonnes. Finalement, tu ne peux être propriétaire que si tu as les revenus suffisants. Sinon, tu ne peux pas être propriétaire. Autrement dit, d'une autre façon aussi, à partir du moment où tu vois supprimer une partie
de ta complémentaire ou de tes minima sociaux, bien, tu es obligé de mettre ton bien en vente. Et tu vas vivre en réalité avec la valeur de ton bien, le bien que tu auras vendu. Bon, alors à la limite, tu peux faire. Enfin, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, mais de toute façon, à un moment donné, pour survivre, tu vas être obligé de vendre ton bien. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est au fond de la question, c'est que celui qui est pauvre n'a pas droit finalement d'être propriétaire de son logement. Bon, c'est quand même. Là, on a une rupture, enfin, on tranche. Enfin, pour nous, il y a une rupture aujourd'hui qui s'instaure, importante par rapport, on va dire, aux philosophies générales ou aux conceptions un petit peu social-démocrates qu'on avait dans les décennies précédentes, où on disait, bah, c'est quand même devenir propriétaire, c'est accessible, ou bien être propriétaire, tu peux le rester quand même, même si tu es pauvre, tu peux rester propriétaire. Bon, c'est difficile, il faut que tu payes, tu vas négocier, je sais pas quoi, la taxe foncière ou des choses comme ça, je suppose, enfin bon, à la fin de, moi je suis pas propriétaire, mais bon, à la fin de l'année, tu vas négocier. Bon, c'est pas évident, je pense que ça nécessite un certain nombre de sacrifices, mais en attendant, au moins les gens, ils sont tranquilles, ils disent on a un petit bien, on a un petit truc. Et ça tranche complètement avec le discours aujourd'hui, gouvernemental, du président de la République, qui dit qu'il faut accéder à la propriété privée. Et là, on a une mesure, enfin les couches populaires, oui, qu'il faut faire accéder à la propriété privée, les couches populaires. Et là, on a une mesure complètement contraire qui est en train d'être présentée. Bon, sous prétexte, on va dire, de lutter contre la fraude. Mais en réalité, il ne s'agit pas de lutter contre la fraude, il s'agit simplement de faire que ceux qui sont propriétaires de leur logement se voient supprimer les prestations et se démerdent pour vendre leurs biens. Bon, alors après, peut-être que parmi ceux-là, il y en a une quantité infinitésimale qui va être effectivement, qui gagne que des revenus suffisants pour vivre et qui n'a pas besoin du RMI. Ok. Très bien, admettons. Mais ce qu'on voit bien, c'est que cette mesure, en tout cas, touche beaucoup plus largement, en réalité, que ce qui est présenté. Hein. Deuxièmement, qu'elle s'attaque finalement à un concept, une conception qui est normalement défendue par ceux qui sont tenants du pouvoir aujourd'hui, hein, et qui défendent l'accession populaire, l'accession à la propriété populaire, donc une grosse contradiction. Et bon, et par ailleurs, évidemment, qu'une mesure, on va dire en règle générale d'ailleurs, finalement, ce décret, alors qu'on parle de relancer la consommation, finalement, moi, on va pousser le raisonnement jusqu'au bout. On a un gouvernement qui dit qu'il faut pousser la consommation. Il faut relancer la consommation. Or, là, précisément, c'est concernant la consommation des pauvres. On va prendre des mesures pour réduire au maximum la consommation des pauvres. Alors, bon, on sait bien que la finalité de cette disposition, c'est de réduire les dépenses sociales de l'État dans le domaine des minima sociaux. Voilà. Alors, les conséquences, évidemment, vont être graves. Les conséquences vont être graves pour les gens, on imagine. Les gens, qui vont avoir ça, qui va tomber sur la tête là, dans les prochaines semaines, je ne sais pas quels sont les délais de mise en œuvre. C'est immédiat, quoi. C'est en application immédiate. Oui. D'accord. Bon, ben voilà. C'est une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les pauvres en France.
Est-ce que vous avez la moindre idée du nombre de bénéficiaires du RMI ou de l'allocation de parents isolés qui sont propriétaires?
Ça se trouve sans trop de difficultés, je pense. Pour faire une petite recherche.
Mais c'est pas difficile d'être propriétaire. On connaît plein de gens qui ont bossé des années, qui ont construit leur vie, qui avaient leur voiture, qui avaient leur famille, qui se sont retrouvés au chômage par un licenciement économique de masse, comme on voit plein actuellement. Ce sont des gens qui n'ont pas déménagé du jour au lendemain. Et c'est des gens même qui croyaient retrouver du travail assez rapidement et qui sont retrouvés dans une situation de RMiste, qui ne l'acceptent souvent pas. D'ailleurs, pour eux, c'est très difficile. Et ce sont des gens sur qui on est en train de taper. Et c'est ça c'est vraiment inacceptable. Mais il y a quantité de gens. Aller voir les boîtes de licenciés, regarder les 4-5 ans après, et regarder un petit peu les statistiques. Il y en a très peu qui retrouvent du travail. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des situations de RMiste. On retrouve beaucoup de femmes aussi, comme le soulignait Evelyne, dans des situations qui sont extrêmes. Et c'est très très facile, et on va en trouver de plus en plus.
Ouais, et il y a un truc qui est encore plus contraignant, c'est un RMiste qui toucherait de l'argent de ses parents pour l'aider, parce qu'il y en a quelques-uns où il y a des parents qui sont assez aisés, qui disent « bon ben, tous les mois je te donnerai 100 euros pour finir tes fins de mois ». Et bien, il ne pourra même plus le toucher, ça, par ses parents. Il pourra dire à ses parents, tu peux pas me donne-moi pas, je ne vais plus toucher les RMI.
Mais ils appellent ça les règles d'évaluation des libéralités et des avantages en nature servis par un tiers.
Oui. Un tiers libre.
Donc on a, voilà, il y a une mesure en réalité de, qui est prise là, qui est une mesure d'appauvrissement ou de paupérisation des populations pauvres. Autrement dit, on va amener les ménages pauvres dans des situations de misère. On jette les pauvres dans la misère. C'est un peu ça, hein, ça sous-tend. Autrement dit, on ne peut vivre que misérablement, misérablement. Parce que pour autant, on ne peut vivre que misérablement, un, comme un pauvre, deux, bon, il y a ça aussi toute une philosophie derrière, c'est qu'on est pauvre et on est vraiment pauvre, et ce n'est qu'à partir du moment où on est dans cette situation-là qu'on peut bénéficier d'une prestation d'une prestation sociale. Donc ça recouvre évidemment, c'est finalement une mesure beaucoup plus large que celle de la lutte contre la fraude. Hein.
Est-ce que c'est du déclaratif, le contournement? Qu'est-ce qu'ils ont accès au contournement? Parce que
oui.
Ils ont un accès, ils ont un droit de regard ou autre transparent.
Mais on a déjà accès à votre
contournement. Oui, parce que c'est déjà fichier croisé, déjà. C'est déjà fichier croisé.
Les fichiers sont croisés.
Mais les banques, donc, donnent les informations confidentielles des comptes aux services sociaux.
Bien sûr, sans dégagement.
Sans nous dire.
Bien sûr.
Moi, je n'ai jamais été prévenue. Que le service
fiscal
avait accès à mon
contentement. Et bien, quand tu fais un emprunt par une. On va prendre un exemple tout simple. Tu fais un emprunt par une boîte privée. Non, tu fais un emprunt à une boîte privée pour avoir des sous. Et bien, ils vont regarder sur ton compte ce que tu touches pour savoir s'ils peuvent te faire un emprunt.
Non, mais ça, c'est un autre sujet.
Non.
Les Cofidis ou les emprunts à la vie crédit. Oui, mais je ne parle pas de la vie crédit, je parle des services sociaux ont accès au des pas bénéficiaires,
pas
pitié,
oui.
Des allocataires.
Oui, tout à fait.
Les services fiscaux.
Sans nous le dire,
On a essayé de contrer une mesure de contrôle de croisement des fichiers l'année dernière de la CEDIC et du fisc, et on a perdu. On a perdu parce qu'ils ont refait, ils ont fait appel. On avait gagné dans un premier temps et on a perdu. Les associations.
Et alors moi, je dirais qu'on va vers le numéro unique là, non?
Le fichier unique. Les contrôles.
Il y a un fichier.
Le fichier unique.
Je voudrais bien.
Je voudrais bien insister sur le fait que entre 17 organisations de chômeurs, intermittents, Confédération paysanne, CAL, Droit Devant, Syndicats solidaires, tous les Suds, hein, on a signé une plateforme commune où on demande que, justement, pour répondre à ce que disait Laurent, quand des gens perdent leur boulot à 40 ans ou que l'entreprise ferme, elle délocalise et tout ça, nous, on veut que les gens gardent un revenu jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé un boulot. Mais quand on dit un revenu, c'est pas un revenu de misère, c'est un vrai revenu. Et qui gardent leurs droits sociaux à la formation, à la retraite, à la santé, au logement. C'est notre revendication fondamentale. On a élaboré une plateforme pour ce qu'on a appelé un statut de vie sociale et professionnelle, parce que les syndicats, comme la CGT solidaire, demandent un nouveau statut du travail salarié pour que le salarié licencié garde son contrat et son revenu. Mais nous, on veut l'élargir aux gens qui n'ont pas de boulot, qui sont chômeurs ou en recherche d'emploi, et donc on a appelé ça un statut de vie sociale et professionnelle, et c'est pour ça qu'on se bat. Il faut mettre la barre haut, parce que là on est en train de tomber très très bas, et il faudrait que les partis politiques relayent nos revendications, ce qu'ils font insuffisamment.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est par rapport à ça, ce qu'ils veulent surtout, c'est dégraisser au maximum les chiffres de RMI. Il y a une espèce de la niche des gens qui sont RMI, ils veulent que ça disparaisse, et inciter à faire n'importe quoi, n'importe quel prix, même quel que soit ton âge, donc tu as 50 balais, 60 balais, ben non, faut pas être RMI. Enfin non, 60 ans, tu n'as plus RMI. Mais bon, même à tous les gens qui ont 50 ans, il faut qu'ils aillent faire n'importe quoi, n'importe quel prix.
C'est plus con que ça, parce que quand tu vas voir un patron, tu vas chercher un emploi, on dit. Vous connaissez l'entreprise? Ben, j'ai travaillé comme les autres il y a quelques années. Ça fait combien de temps que vous ne travaillez plus? Ben, il y en a qui disent, ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans. Ben, je ne peux pas vous prendre, vous êtes irrinsérable. Donc on ne peut pas vous prendre. Et de toute façon, comme les formations qui existaient à une période de longue durée n'existent plus, on fait faire des fois des formations de 3 jours ou des formations d'une semaine pour essayer de retrouver un emploi. Et quand tu arrives à l'entreprise, le patron va faire. Vous avez fait des formations pour Ben oui, 3 jours. Insuffisant. Je ne peux pas vous prendre. En 3 jours, vous ne pouvez pas connaître l'emploi. C'est pas possible. Donc, ce n'est pas la peine de venir chercher un emploi chez moi. Vous n'en aurez jamais.
Il y a peut-être des questions.
Une question
en
rapport avec le problème de l'insertion.
Oui. Moi, je siège en séance de groupe 3.
Nous, on a fait la
notion des prêts, par exemple. Il n'est pas...
Alors, on va essayer d'interpeller M. Hirsch à ce sujet. Bon, mais la position de M. Hirsch, c'est plutôt que lui, il veut faire avancer son projet de RSA et de contrat unique d'insertion. Il dit, quel que soit le gouvernement, moi, je suis volontariste pour faire avancer cette disposition qu'il estime juste de son point de vue. Donc, éventuellement, il s'exonère des autres réformes dans le même champ.
Au niveau de ce truc, au MNCP, on a relevé cette contradiction qui était la politique, justement, de ce gouvernement qui était tout le temps de rajouter, de culpabiliser les chômeurs, en plus dans un contexte où il n'y a pas de création d'emploi. Parce que c'est bien beau de parler de retour à l'emploi, et c'est le maître mot qu'on peut avoir dans ce problème, mais derrière, il n'y a pas d'emploi. Donc, c'est soit on crée de l'emploi artificiel,
vous faites bien.
Et le Grenelle.
Faites bien de parler du Grenelle parce que d'abord c'est relié. Dans ce Grenelle, a principalement pour objectif de définir un nouveau contrat, le fameux RSA, revenu de solidarité active, qui sera assorti d'un contrat unique d'insertion, et ce système va annuler et remplacer tous les dispositifs qui existaient avant, y compris le RMI, qui doit disparaître à terme. Et dans ce RSA, il va se discuter en prochaine séance, ce mois-ci, dans mon groupe de travail, quelles sanctions prendre pour quelqu'un qui refuserait de signer son contrat de revenu de solidarité active assorti de contrat unique d'insertion. Alors, quelles sanctions prendre sur un prétexte philosophique qui dirait que voilà les trois acteurs que sont l'État, l'employeur et le demandeur d'emploi soumis aux règles de droit et de devoir réciproques. Chacun doit s'estimer des devoirs aussi. Alors, le devoir du demandeur d'emploi, ça sera d'accepter ce qu'on lui propose. Et alors, c'est ça qui va se discuter et qui est un gros enjeu de ce Grenelle, c'est la contrainte et la coercition qu'on va exercer sur le demandeur d'emploi pour, avec un chausse-pied, lui faire accepter le dispositif. Et alors, sous peine, sinon il serait pénalisé. Alors, vous imaginez... ce qui arrive, c'est encore quelque chose qui va vers la grande exclusion. Alors c'est tout à fait inacceptable. On ne peut pas faire du chantage aux plus vulnérables. Et ce système de RSA aussi va ouvrir la porte aux emplois à temps partiel qui vont remplacer les contrats ordinaires. On a déjà vu que le CDI, c'est du passé maintenant. Et donc le CDD aussi, ça va être du temps partiel qui va intéresser beaucoup les patrons. Et donc on s'installe dans une précarisation prévisible de l'ensemble de la société, enfin jusqu'à niveau classe moyenne, ce sera du temps partiel. Alors c'est ça qui se passe dans le Grenelle, qui se discute, et c'est donc très 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 grave.
C'est encore plus sain pour les fraudeurs de RMI. Ou pour eux. C'est l'assistante sociale, des fois, qui appelle la CAF et qui dit « J'ai monsieur, il veut prendre un emploi. » Et bien, les agents sociaux, j'ai vu des agents sociaux dire « Bon, vous voulez pas prendre un emploi ?» J'appelle la direction du RMI et je vous fais rayer votre RMI. Et il y a des agents sociaux qui font pression aussi là-dessus. Il y a des gens aussi sur le système du RMI. Alors, il y a le centre social qui va leur donner. J'en connais, des fois, ils vont à le centre social, ils y vont une fois ou trois fois par an. Et des fois, ils ressortent avec 150 euros ou 200 euros d'assistance sociale. L'assistance sociale aura le droit, alors, sur le nouveau système de contrôle des RMI, d'appeler la CAF à l'eau. La CAF vient de donner tant à monsieur Intel qui est RMI Ils auront le droit de le faire.
Et justement, le Grenelle de l'insertion, c'est quand la conclusion?
Alors, c'est les fins des travaux et les conclusions, c'est mai-juin.
Ah, ça va durer longtemps alors?
Bah, ça a commencé au mois de décembre.
Et il y a qui là-dedans? Qu'est-ce qui passe?
Alors, toutes les structures qui font qui ont à voir avec l'insertion.
Parce qu'il y a
public associatif, ouais. et puis tous les grands corps qui sont représentés, le MEDEF, les syndicats, la CAF.
L'association de chômeurs et dessous.
Alors il y a quelques associations chômeurs. J'ai vu CGT Chômeur qui est dans mon groupe.
La réponse pour AC, c'est qu'on a demandé à État Observateur et qu'on attend la réponse.
Ah, ils n'ont pas accepté AC, ils n'ont pas accepté.
On attend la réponse.
Oui, il y a d'ailleurs des polémiques en interne parce qu'il y a certains qui ont été un peu évincés, qui auraient voulu participer. Je pense à ACT UP, notamment, ça a fait un petit incident. Et puis une autre organisation qui s'est plainte, j'ai pas le nom.
L'économie sociale et solidaire.
Oui, oui. Alors, il y a des organisateurs qui décident qui participe et qui ne participe pas.
Et le MNCP?
Alors, MNCP, on a pu se caser dedans. Voilà.
Et la PES?
Non.
Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter en tant que journaliste pour qu'on sache exactement qui est qui?
Ils ont rempli.
Ah, ils ont rempli. Voilà.
Moi, je travaille à l'Humanité, je suis d'accord. D'accord. Nous, on est là, c'est la télé libre. Je me fiche quand même. La télé libre.fr. Le
Père. Avec ce journal.
Oui, il prend sa terre.
Et derrière,
je
ne
sais pas,
il y a FPP. Il y a FPP, fréquence préférée.
C'est qui le ministre qui s'en occupe de ce Grenelle?
C'est M. Martin Hirsch qui a été nommé haut commissaire aux solidarités actives.
Comment vous le trouvez?
Ignoble.
Je le trouve souvent.
Mais comment il est, il a l'air.
Alors, ça, c'est des jugements de je sais pas, c'est difficile à dire. C'est subjectif. Moi, j'essaie de savoir sa sincérité, c'est tout ce qui m'intéresse.
Oui, ce qui est intéressant,
mais ça, c'est personnel.
C'est de voir la cohésion qu'il peut y avoir entre un Grenelle qui parle d'insertion et puis des mesures comme celle qu'on a aujourd'hui. Et toute cette contradiction, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir.
Voilà, nous, au fur et à mesure, on voit qu'il y a des contradictions. Et on ne sait pas quel jeu il joue exactement.
Mais on voit bien quelle est la logique, c'est de diminuer énormément toutes les dépenses de solidarité de l'État. Et comme le patronat renvoie une partie des dépenses sur l'État parce qu'il veut s'en débarrasser, l'État, lui, il a comme philosophie de couper tous les fonds qu'il accorde encore à des gens qui ont des difficultés, qui ont perdu leur emploi, qui cherchent un emploi, etc.
Alors,
et donc c'est une société qui se met en place, qui est complètement différente de celle qu'on connaissait, où il y avait quand même une base de solidarité nationale. Et c'est une société qui va vers compétition, et puis les pauvres, ils n'ont qu'à crever, quoi.
Alors oui, une petite précision pour vous répondre un peu mieux. Monsieur Martin Hirsch vient donc d'Emmaüs. Il y a une culture, je suppose, à Emmaüs, qui a l'air de penser qu'il est plus digne pour la personne qu'elle participe à sa suffisance matérielle plutôt que d'être assistée. Hein. C'est-à-dire qu'il vaut mieux réparer des chaises cassées que d'être dans la solidarité, d'être l'objet de la solidarité. Alors, c'est ça qui a, à mon avis, qui a nourri cette notion de devoir du demandeur d'emploi.
C'est pas tout à fait ça, moi qui l'ai.
N'interromps pas. Et alors, cette notion de devoir, moi, elle ne me plaît pas du tout, parce que les rapports de force entre l'employeur, l'État et le demandeur d'emploi ne sont pas du tout les mêmes. Le demandeur d'emploi, il est en situation vulnérable, fragilisé, plus souvent même, et lui demander d'avoir des devoirs autres que le droit commun, ça me paraît assez aberrant, quoi. C'est plutôt un moyen de pression.
Et sinon, quand tu regardes, par exemple, le Grenelle de l'environnement, pour tout simplement qu'ils appliquent ce qu'ils avaient décidé, il fallait faire les règles de la fin. Alors comment vous allez faire?
Alors c'est très drôle, parce qu'à la première séance, il y a un parlementaire qui est venu c'est M. Noël Mamère, et il nous a dit bon courage, moi je sors d'un Grenelle où aussi c'était très beau, des belles cérémonies, les gens parlent très 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 bien, c'est super organisé, et on y était presque, on pouvait y croire quoi. Et puis à la fin, quelques jours après, on a su que tout ça, ça se dégonflait très vite. Quoi. Alors il nous a dit, il nous a mis en garde, attention à la mascarade et au traquenard. Il a parlé comme ça.
Comme
voilà, opération de communication. Déjà, et réfléchissez, qu'est-ce que c'est que cette utilisation de mots Grenelle ? C'est quand même une insulte faite à l'histoire, parce qu'il faut savoir que c'était un grave conflit social et qu'il y avait eu à la solde 22% d'augmentation du pouvoir d'achat. Alors, on se moque de nous, il ne s'agit pas de ça du tout. Il faudrait les prendre au pied de la lettre, faisons à ce moment-là, faisons un vrai Grenelle.
Surtout qu'ils voulaient rayer mai 68, en plus, ils se réfèrent à Grenelle.
Et voilà, je ne vous le fais pas dire, on est dans la contradiction.
Il y a des questions. Juste, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Parce que vous avez déjà réfléchi à une autre forme de mobilisation.
Justement,
pas encore, oui, est-ce que vous allez nous informer?
Enfin, notamment, nous, on a réfléchi au niveau d'AC, et puis on verra avec nos camarades d'autres associations de chômeurs, c'est de mettre ce projet entre les mains d'un avocat. D'accord. Et de voir si on ne peut pas le montrer.
D'accord. Et par ailleurs, pour faire parler de cette histoire-là, est-ce que vous envisagez de faire
on
n'a pas encore défini d'action.
Quand
on définira, on fera des rapports, parce que sinon, on a toujours des comités d'accueil en arrivant. Donc,
d'accord. Il n'est pas un problème qu'on fasse des actions dans les cas. Dans les cas. Pourquoi pas? Il y avait Zali qui voulait parler.
Non, c'est une question. Oui,
je connais.
Ce qu'on dit souvent, c'est que le RMI, au départ, quand ça a été créé, c'était deux droits à la base.
Voilà.
Le droit à un revenu et le droit à l'insertion.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est devenu le droit à un revenu et le droit et le devoir qui est devenu. Enfin, l'insertion est devenue le devoir, en fait. Il n'y a plus.
C'est de l'intox.
Et puis il n'y a plus. Ce qu'on oublie de dire, enfin, ce qu'on oublie d'expliquer, c'est que la question du suivi, de l'accompagnement des gens, elle n'est pas réelle. Aujourd'hui, on tape sur les personnes en leur disant, en les montrant du doigt, en les culpabilisant, en leur disant oui, vous ne vous levez pas le matin, etc. etc. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, on nous pose comme solution le Grenelle de l'insertion, etc. Moi, je crois que c'est du foutage de gueule, en fait. Qui est-ce aujourd'hui serait content? L'insertion, c'est quoi? C'est travailler, aller 60 heures par mois, c'est pas du boulot. Aujourd'hui, les associations de chômeurs, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent pas, ouais, il faut pas se lever le matin pour aller bosser, ou je ne sais quoi d'autre. Elles disent aujourd'hui, il faut un réel suivi, un réel accompagnement vers l'emploi, avec un vrai emploi à la base. Pas de dire, pendant toute la campagne électorale, on nous a dit, oui, la valeur travail, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quoi la valeur travail quand il faut travailler 3 heures par semaine, ou voir des femmes se lever le matin pour travailler 3 heures, rentrer chez elles, pendant toute la journée, etc., repartir le soir à 20h pour aller rebosser 2 heures. C'est pas ça le travail. Aujourd'hui, on ne parle plus de politique de l'emploi, on nous parle de politique d'insertion. Et dedans, aujourd'hui, cette politique d'insertion, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous êtes au RMI, eh ben, on va vous enlever votre voiture, on va vous enlever vos logements, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas mettre en place un si gros truc, enfin un problème sérieux qui est l'emploi, sans parler des conséquences, c'est-à-dire le logement, la santé, etc., etc. Aujourd'hui, on nous parle de Grenelle de l'insertion, et à côté de ça, on vous enlève tout ça. Parce que comme disait Daniel tout à l'heure, si on vous enlève le RMI, vous n'avez plus la CMU, vous n'avez et puis tous les droits conséquents à ce revenu. Donc, c'est là où, en tout cas pour la UNCP, on a intérêt à vraiment faire bouger les pouvoirs publics, parce que les personnes qui aujourd'hui sont en situation de pauvreté dans ce pays sont en danger. Voilà. Ils sont en danger. Il y a du non à assistance à personne en danger. C'est un cadre législatif. Il y a des lois dans ce pays. Et aujourd'hui, on est en train de les détourner. Ce décret, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on ne parle avec personne. Est-ce que les syndicats ont été informés de ce décret? Est-ce que les associations ont été informées? Personne n'est informé. Enfin, moi, j'ai vu ça sur Internet. En regardant Internet, tous ici, en regardant Internet, enfin, il y a un problème.
Quoi, les journalistes?
Non, mais c'est pas la question du journaliste. C'est la question de la législation, en termes législatifs.
On a vu la presse il y a un mois. C'est dans la presse il y a un mois qu'on a vu le...
Oui, mais je veux dire, c'est vraiment... c'est dire aux gens, aujourd'hui on s'adresse aux gens, puisqu'on ne peut plus s'adresser au pouvoir politique. C'est ça, c'est que si les gens occupent la rue, etc., dans des tentes, etc., c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler avec le pouvoir politique. Or, le pouvoir politique, on nous dit, ouais, faut aller voter, mais voter pour quoi? Enfin, pour qui? Et comment? Et comment est-ce qu'on discute avec ces gens-là? Je crois que ça, c'est... le souci, il est aussi là. Enfin, je ne sais pas si...
Je rappelle une chose, c'est que dans notre Constitution... Il est marqué que quelqu'un qui n'a pas de travail doit avoir des moyens
droits fondamentaux. Il n'y a plus de droits fondamentaux. Enfin, aujourd'hui, dans ce pays, on ne peut plus parler de droits fondamentaux, qui est la santé, le logement, enfin, des choses qui sont nécessaires. C'est de vivre, quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est paradoxal de mettre un Grenelle de l'insertion. Martin Hirsch, moi, je pense qu'il a une grosse responsabilité. Il faut qu'on arrête de le dédouaner un peu. Enfin, vraiment, moi, je le dis comme ça. Moi, je suis travailleur social aussi. Et je trouve que Martin Hirsch, vraiment, il a une sacrée responsabilité dans cette politique-là. Parce que là, il se cache derrière Sarkozy en disant « Ouais, moi, je suis pas au ministère, non, je suis au commissaire, au patati et patata. » Nous, on l'a rencontré lors de nos universités d'été en juin. Il est venu nous présenter son Grenelle de l'insertion et il n'y croyait déjà pas à son Grenelle de l'insertion. Il l'a dit, j'étais là, il a dit « Moi, je ne sais pas si je vais rester, je vais peut-être sauter au prochain remaniement. » Mais putain, merde, en dessous de qui, quoi? Martin Hirsch, je pense qu'à un moment donné, il faut le mettre face à ses responsabilités. Il n'est plus président d'Emmaüs, il est un homme politique. On arrête, quoi.
Dimanche, à la télé, il a dit je suis toujours très inquiet parce que je ne sais jamais si on va me retirer des budgets.
Il n'en a pas de budget.
Le budget du Grenelle de l'insertion, de toute façon, il est pour le chagrin, déjà. Alors il est en inquiétude constante parce qu'il a peur qu'on lui retire ses...
Il a quand même pris le poste, hein.
Voilà.
Et de toute façon, le RSA qui est théoriquement en expérience pour 3 ans et qui a commencé vers le mois de novembre dans certains conseils régionaux,
se développe
à une vitesse, à la vitesse de la lumière. Il y a actuellement 40 départements qui sont déjà... dans cette expérience, et avant que le Grenelle soit terminé, on verra que toute la France sera tuilée et que le RSA, qu'on le veuille ou non, sera entré dans les faits.
Mais c'est logique que ça s'inscrit vraiment dans une politique globale. Il n'y a pas plus de 2 ans, moi, j'ai tous les conseils généraux dire qu'il n'y avait plus de fric pour le RMI. Donc les sous qui étaient avant l'État pour les conseils généraux et tout ce qui finance le RMI, les conseils généraux ne peuvent plus faire face. Et avec la politique que je disais aussi sur le plan politique, qui fait que de plus en plus de chômeurs sortent du système d'indemnisation ou du système d'assurance, sont basculés vers des systèmes comme le RMI, ça engorge énormément les fonds des conseils généraux. Et là, on retrouve toute une logique qui est comment arriver à faire des dépenses à la c'est tout simplement, moi on voyait ça déjà, c'était le premier traité de Lisbonne, hein, l'Union européenne. Activer les dépenses passives, on est dans cette logique.
Merci beaucoup. Hein.